Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du lundi 20 décembre 2021. En direct de Washington, Jean-Roger Villon.
Et Rosine Monezero.
On commence avec le sommet.
Des centaines de milliers de Soudanais ont repris la rue pour protester contre les militaires. Les manifestants ont bravé les forces de sécurité dont la riposte a fait plusieurs blessés.
Deux policiers ont été arrêtés en République démocratique du Congo. Ils sont soupçonnés d'avoir torturé un suspect retrouvé mort à Kinshasa.
Anthony Fauci, conseiller de la Maison Blanche, a averti dimanche que le variant Omicron du Covid-19 se déchaînait à travers le monde. L'éminent scientifique s'est inquiété du nombre d'Américains toujours non vaccinés.
Ici aux États-Unis, le démocrate Joe Manchin refuse de soutenir le plan de Joe Biden au Congrès.
Ne manquez pas notre passeport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Nouvelle journée de mobilisation hier au Soudan, à Khartoum. La capitale, la police a tiré des grenades lacrymogènes pour disperser les dizaines de milliers de manifestants. Claire Morin-Gibault.
Au troisième anniversaire de la révolution ayant évincé Omar el-Béchir, des centaines de milliers de Soudanais ont repris la rue, bravant des violences qui ont fait plusieurs blessés. Aux abords du palais présidentiel, siège des autorités présidées par le général Bourane, auteur du coup d'État, les manifestants ont décrété en soirée un sit-in sur le modèle de celui qui, lancé il y a 3 ans jour pour jour, a renversé Béchir. Aussitôt l'annonce faite via des haut-parleurs, un barrage de grenades lacrymogènes a plu sur la foule qui comptait encore des milliers de manifestants en soirée. Dans l'après-midi déjà, la police avait tiré en l'air à balles réelles et usé des grenades lacrymogènes pour tenter de disperser les manifestants. Après le putsch et la répression qui a fait 45 morts et des centaines de blessés, les fers de lance de la révolution anti-Béchir veulent relancer un mouvement qui s'est essoufflé parmi les 45 millions de Soudanais englués dans une inflation à plus de 300%. Le premier ministre réinstallé, Abdallah Hamdok, a mis en garde contre de nouvelles violences qui risquent, dit-il, d'entraîner le pays dans un abîme.
Un total de 38 personnes ont été tuées dimanche dans des attaques menées par des hommes armés contre 3 villages de l'est de Kaduna dans le nord du Nigeria. Les assaillants ont pris d'assaut les villages de Karun Fawa, Marke et Ria dans le district de Jiwa, a affirmé le commissaire aux affaires intérieures de l'État de Kaduna, Samuel Arouane.
Ce dernier a précisé que les hommes armés ont également mis le feu à des maisons, des véhicules ainsi qu'à des produits agricoles dans plusieurs fermes. Monsieur Arouane a aussi fait savoir que les efforts se poursuivaient pour identifier les 9 autres civils morts. Dans la soirée, le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, a condamné ces nouvelles horribles attaques dans un communiqué évoquant des tueries inacceptables.
En République démocratique du Congo, 2 policiers ont été appréhendés et déférés au parquet, a annoncé la police nationale. Ils sont soupçonnés d'avoir torturé un jeune homme décédé après son interpellation à Kinshasa. Plus de détails avec Eric Manirakiza.
Les images ont fait le tour de la toile. Un jeune homme en caleçon subit des mauvais traitements, apparemment dans les locaux de la police où il sera ensuite retrouvé mort. Ces images qui ont circulé sur les réseaux sociaux ont suscité l'indignation. Sur sa page Facebook, la police nationale congolaise a dit condamner le recours aux actes inhumains, dégradants et de torture infligés aux défunts. Une commission d'enquête vient d'être instituée au niveau de la coordination nationale de la police judiciaire et les auteurs présumés de ces actes ignobles ont été appréhendés, a ajouté le porte-parole de la police, le colonel Mwanamputu. Ces actes ne doivent pas être considérés comme engageant tout le corps de la police, assure le porte-parole, qui précise que les enquêtes continuent au niveau du parquet.
Les armées congolaises et ougandaises ont engagé depuis le 30 novembre dans une opération conjointe contre les ADF, forces démocratiques alliées, dans l'est de la RDC, ont annoncé la destruction cette semaine de nouveaux bastions des rebelles et l'arrestation de 35 d'entre eux en Ituri. Après avoir réhabilité les routes pour faciliter les mouvements de troupes, les forces armées de RDC, FARDC et d'Ouganda, UPDF, sont passés à l'offensive et ont bombardé de nouveaux campements ennemis identifiés en territoire de Beni dans le nord Kivu et dans la province de l'Ituri, selon un communiqué conjoint tweeté dimanche par l'armée congolaise.
Implanté depuis 1995 en RDC, près de la frontière ougandaise, les ADF sont considérés comme le plus meurtrier des groupes armés sévissant dans l'Est, responsable du massacre de milliers de civils.
En Égypte, Mahmoud Ezzat, dirigeant de 77 ans de la confrérie islamiste des frères musulmans interdite, a été de nouveau été condamné dimanche à la perpétuité par un tribunal du Caire pour espionnage au profit du Hamas, mouvement islamiste palestinien. Selon une source judiciaire, M. Ezzat est déjà condamné à la perpétuité en avril dans une autre affaire, a été reconnu coupable de collaboration avec le Hamas, issu de la mouvance des frères musulmans et qui contrôle la bande de Gaza.
Il est possible de faire appel de ce verdict, a précisé la source. Membre des frères musulmans depuis les années 1960, M. Ezzat a été emprisonné sous les présidents Nasser, Sadat et Moubarak, considéré comme une organisation terroriste en Égypte depuis l'été 2013. La confrérie des frères musulmans est aujourd'hui quasi anéantie.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Politique américaine à présent, le gigantesque plan de réforme sociale de Joe Biden pourrait avoir reçu dimanche un coup fatal avec l'annonce par le sénateur démocrate Joe Manchin qui n'approuverait pas ce programme crucial pour le mandat du président américain, invoquant notamment la hausse des prix et l'ampleur de la dette. Gabi Dorsey.
L'élu de Virginie-Occidentale a choisi la chaîne Fox News, très critique du président Joe Biden, pour faire son annonce. « Je ne peux pas voter pour ça, c'est non », a déclaré Joe Manchin. La Maison-Blanche a aussitôt critiqué ce revirement inexplicable et soudain, tout en affirmant qu'elle continuerait à tenter de le convaincre de voter en faveur du projet. Baptisé « Build Back Better » ou « Reconstruire en mieux », le plan de 1750 milliards de dollars prévoit notamment de faire baisser le coût de la garde d'enfants et des médicaments, des crédits d'impôt pour les foyers américains et des investissements conséquents pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le Sénat étant divisé, avec 50 élus pour chaque camp, la décision de M. Manchin pourrait sonner le glas de ce programme destiné à transformer l'Amérique.
Le point maintenant sur la pandémie de coronavirus dans le monde. Les Pays-Bas sont rentrés en confinement. Israël a annoncé de nouvelles restrictions de voyage. Le chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso, s'est mis en quarantaine. Michel Joseph.
Anthony Fauci, le conseiller de la Maison-Blanche sur la crise sanitaire, a averti hier que le variant Omicron du Covid-19 se déchaînait à travers le monde. Monsieur Fauci s'est inquiété du nombre d'Américains toujours non vaccinés. Les Pays-Bas rentrent en confinement jusqu'au 14 janvier, alors que 86% des adultes sont vaccinés. La Commission européenne a annoncé un accord avec BioNTech et Pfizer pour livrer 20 millions de doses supplémentaires aux États membres afin de faciliter les campagnes de vaccination. Le gouvernement israélien a interdit à ses citoyens de se rendre dans plusieurs pays européens, dont la France, placée sur liste rouge. Et les États-Unis pourraient y être ajoutés. Ces restrictions de déplacement à l'étranger concernaient déjà la plupart des pays africains. Au Congo-Brazzaville, le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, s'est mis à l'isolement après que plusieurs personnes de son entourage immédiat ont été testées positives au Covid-19. Le Congo a allégé récemment quelques mesures de lutte contre le Covid-19, autorisant notamment l'organisation des mariages.
Un accord a été trouvé dimanche lors d'une réunion de l'Organisation de coopération islamique, OCI, pour mettre sur pied un fonds humanitaire pour aider l'Afghanistan où des millions de personnes sont menacées de famine cet hiver. Le fonds sera mis en place sous l'égide de la Banque islamique de développement pour acheminer l'aide vers l'Afghanistan, a déclaré le ministre pakistanais des Affaires étrangères, Shah Mahmoud Quraish. Lors d'une conférence de presse, l'OCI invite aussi à étudier des pistes pour débloquer les réserves gelées de la Banque centrale afghane.
Les Hongkongais ont très largement boudé les urnes dimanche pour le renouvellement du conseil législatif de leur ville. En vertu d'un nouveau processus imposé par Pékin, la Chine a drastiquement réduit le nombre de sièges pourvus au suffrage universel et réservé le droit d'être candidat aux patriotes loyaux envers la Chine.
Le candidat de gauche Gabriel Boric a remporté dimanche le deuxième tour de l'élection présidentielle au Chili, une victoire écrasante sur son adversaire d'extrême droite, José Antonio Kast, qui a officiellement reconnu sa défaite. Selon les résultats officiels définitifs, M. Boric, qui à 35 ans avait tout juste l'âge pour se présenter, l'emporte avec près de 56% des voix contre 44% à M. Kast, un admirateur de la dictature d'Augusto Pinochet, soutenu par l'ensemble de la droite chilienne.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est arrivé dimanche au Liban, où il a sévèrement critiqué les responsables politiques, accusés de paralyser ce pays frappé par une crise économique et financière sans précédent. Il a par ailleurs affirmé que le but de sa visite était de discuter des moyens pour soutenir le peuple libanais afin de l'aider à surmonter cette crise et promouvoir la paix, la stabilité et le développement durable.
Une enquête du quotidien El País sur 251 pédophiles présumés dans l'Église catholique espagnole a été transmise au Vatican, qui a ouvert des enquêtes internes d'après un article du journal paru dimanche. Ces accusations et témoignages portent sur des faits survenus entre 1943 et 2018, détaillés dans un rapport remis au pape le 2 décembre dernier, a précisé le quotidien qui a publié de premières données anonymisées de ces cas sur son site internet.
Lance maintenant la page d'espoir avec Élisée Oumpatine. Bonjour Élisée.
Bonjour Jean-Roger et bonjour à tous.
Football pour commencer avec le troisième tour retour des éliminatoires du mondial féminin des moins de 20 ans, Costa Rica 2022.
Oui, et trois nouveaux qualifiés pour le quatrième tour, le Ghana, la Tanzanie et le Sénégal. Les Ghanéennes ont battu les Zambiennes 1-0 après le nul 0-0 du match aller. Les Tanzaniennes, accrochées 1-1 à domicile par les Burundaises, profitent de leur victoire de 3-2 à Bujumbura. Et puis, de leur côté, les Sénégalaises, vainqueurs 2-0 lors du premier match devant les Guinéennes, ont subi une défaite 3-1 à Conakry. Elles profitent ainsi de la règle du but marqué à l'extérieur pour valider leur qualification. Au prochain tour, le Sénégal affrontera le Maroc, la Tanzanie, l'Éthiopie et le Ghana, l'Ouganda.
Direction Doha au Qatar, l'Algérie a remporté la Coupe arabe des nations de la FIFA.
Tout à fait. Les Fenecs remportent ce trophée pour la première fois de leur histoire après avoir battu en prolongation la Tunisie 2-0. Des réalisations d'Amin Sayoub et Yassine Brahimi. Brahimi, justement, élu meilleur joueur du tournoi à moins d'un mois de la CAN au Cameroun. L'Algérie fait le plein de confiance en vue de conserver sa couronne continentale. Le pays hôte, le Qatar, finit troisième suite à son succès au tir au but face à l'Égypte 5-4, 0-0 à la fin du temps réglementaire.
Handball à présent, la Norvège renverse la France et devient championne du monde.
Pourtant dominatrice en première période, les championnes olympiques n'ont pas tenu la distance face à leur rivale norvégienne vainqueur 29-22. Les Bleus n'ont pas trouvé la solution face à la défense scandinave et finissent le championnat du monde avec la médaille d'argent. Le Danemark termine à la troisième place en disposant de l'Espagne lors de la petite finale 35-28.
Handball toujours et fin de la saison au Bénin avec le cercle de Flowers en hommes et dames.
Oui, l'équipe amenée par le manager Aimé Sebior a triomphé après une belle compétition à chaque fois face à l'association sportive du port autonome de Cotonou. Chez les dames, Flowers a détrôné les filles portuaires à un point près, 25-24. Par contre, ça a été plus facile chez les hommes avec une large victoire de 29-19. Le plus heureux, Aimé Sebior.
Sur le plan local, il y a la rivalité. Il faut respecter les équipes. Aujourd'hui, c'est notre jour. Demain, ça peut ne pas être notre jour. D'accord ? On respecte l'adversaire. Comme je vous l'ai dit au début, on prend match par match. Nous sommes à la fin. Je suis très content. Les joueurs se sont très bien exprimés. Vous l'avez vu, la courbe a été ascendante. Je vous l'ai dit au départ. Il y a une bonne préparation. Au cours de la compétition, la courbe est ascendante. Dès qu'on finit la compétition, la courbe chute. Voilà, vous allez constater. Tout à l'heure, au niveau de l'équipe féminine, on a joué hier contre Adida. Deux matchs suivent, mais ne se ressemblent pas. Qui pouvait imaginer ce qu'on a joué hier, qu'on allait jouer de cette manière aujourd'hui? Donc, tout est grâce. Avec deux joueuses, pas des moindres, qui sont blessées. Pourtant, on a gagné. Donc, on a du répondant.
Du basketball pour finir, la NBA. Et avec vous, Jean Rouget, les résultats de la nuit.
Oui, Élisée, Phoenix a écrasé Charlotte 137-106. Les Bulls de Chicago sont venus à bout de Lakers de Los Angeles 115-110. Minnesota a disposé de Dallas 111-105. Sacramento a battu San Antonio 121-114. Portland a surclassé Memphis 105-100. Et Detroit a pris le meilleur sur Miami 190. De nouveau avec vous, Jean-Roger Billon, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Burkina Faso, le parti de Blaise Compaoré a tenu son congrès ce week-end. Un parti divisé qui a tenu ce congrès sous tension. D'un côté, des conservateurs, les plus fidèles de Blaise Compaoré, et les futuristes, comme on les appelle, les proches de l'actuel président du parti, Eddy Kombo-Higo. Le parti de Blaise Compaoré est désormais au bord de l'implosion, selon des analystes de Ouagadougou. Notre correspondant Lamine Traoré nous en dit plus.
Le 8e congrès du CDP, le congrès pour la démocratie et le progrès, s'est tenu samedi et dimanche. Mais déjà vendredi, l'aile historique du parti a annoncé la suspension pour 6 mois du président du CDP, Eddy Kombo-Higo, et a qualifié le congrès qui devait se tenir le lendemain de nul et de non-effet, car sans base légale. L'ancien chef de l'État, Blaise Compaoré, aurait demandé le report de ce congrès au regard de la situation sécuritaire.
Cette réunion du Bureau exécutif national a constaté donc que c'est un acte de défiance vis-à-vis du fondateur, président d'honneur du parti Blaise Compaoré.
Achille Tapsoba, premier vice-président du parti.
À cette défiance s'ajoute un acte d'indiscipline caractérisé. Par conséquent, les membres du Bureau exécutif national, dans leur majorité, ont pris la décision sur rapport de la commission contrôle et vérification du parti de prendre la sanction de suspension de 6 mois à l'encontre du président du parti, le président du Bureau politique national, M. Eddy Kombo-Higo.
Mais cela n'a pas empêché l'aile dite futuriste de l'ancienne majorité à aller en congrès samedi et dimanche. Eddy Kombo-Higo a été réélu à la tête du parti pour 4 ans. Il fallait tenir ce congrès selon Eddy Kombo-Higo.
Mais c'est l'administration territoriale qui nous dit que si le congrès ne se tient pas d'ici la fin de l'année, nous encourons des sanctions. Nous ne nous mettons pas dans le risque. Vous avez vu, toutes les 45 provinces ont répondu présentes. Le quorum est largement atteint. Alors nous posons des questions. Quel agenda caché ils ont à s'opposer systématiquement à la tenue d'un congrès ordinaire qui doit se légaliser, légaliser ces textes, régulariser ces textes.
Pour les observateurs, il y a un risque d'implosion du parti de Blaise Compaoré. Pazien est juriste et analyste politique.
Il y a un antagonisme qui est réel aujourd'hui avec des contradictions qui sont même déportées en justice et aujourd'hui le congrès qui se tient avec l'actuel président qui envisage même changer le logo du parti et tout ce qui s'ensuit, c'est ce qui se dit. Le risque majeur pour ce parti qui est resté ultra dominant pendant environ 25 ans sur la scène politique burkinabé, le principal risque, c'est un risque d'implosion. De toutes les façons, à l'issue de ce congrès-là, le CDP ne sera plus le même CDP. Et je pense qu'il sortira beaucoup plus affaibli qu'au départ. Déjà qu'il a été fragilisé par ces 6 ans où il a déjà quitté le pouvoir.
Le congrès s'est tenu malgré ses remous au sein du parti. Le 8e congrès du CDP a autorisé ce dimanche la mise en place d'une commission de réflexion. Achille Tapsoba, qui était jusque la première vice-présidente du parti, a été remplacé par Boubacar Sanou. Blaise Compaoré reste président d'honneur. Mais à titre honorifique, a annoncé Eddy Kombo-Higo. L'ancien patron du CDP n'aura donc plus une grande influence sur le parti. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Tchad, près de 100 000 personnes fuyant les violences dans l'extrême nord du Cameroun et installées depuis plus de 2 semaines au Tchad disent craindre pour leur survie. Elles dénoncent notamment la mauvaise distribution des vivres et autres biens qui leur ont été donnés par des ONG et des personnes de bonne volonté alors que l'opération d'enregistrement est toujours en cours. Le reportage d'André Kodbajinga, correspondant de VOA, à N'Djamena.
Ils sont 45 000 à être installés sur 4 sites dans le premier arrondissement de la ville de N'Djamena et environ 39 000 installés dans le département du Chari à l'entrée sud de la capitale N'Djamena.
Ils ne sont pas venus avec une demande de visa ou autre. Ils ont fui leur pays malgré eux.
Papa Kismasi, la représentant du SR au Tchad, pour lui, certains réfugiés sont sur des sites qui ne sont pas conformes.
Avec le gouvernement du Tchad, nous sommes en train de travailler pour identifier un site de relocalisation où nous allons les installer afin qu'ils reprennent une vie normale au Tchad jusqu'au moment où ils pourront rentrer chez eux, ce qu'on appelle chez nous le rapatriement.
Déjà, certains se plaignent de leurs conditions de vie.
Dans notre secteur numéro 7, il y a des gens qui dorment à même le sol, alors qu'une grande partie des nattes et couvertures sont stockées dans le conteneur, mais ils refusent de nous donner.
L'État tchadien nous a accueillis en volant à notre secours avec des dons, mais ceux qui sont en charge de nous distribuer ne le font pas bien. Ils se partagent entre eux. Il y a un qui est venu ramasser nos biens dans un véhicule pour partir avec. Ils font le partage par affinité.
Parmi ces réfugiés camerounais, il y a des tchadiens qui ont vécu très longtemps à Koussiri, une ville frontalière entre le Tchad et le Cameroun. Ce groupe s'est dit être marginalisé dans la distribution des vivres et des biens.
Je suis arrivé ici avec 12 enfants. Je n'ai rien trouvé. J'ai deux couvertures pour 12 personnes.
Moi, je souffre de mal de poitrine et je dors avec mes 6 enfants à même le sol. Mes voisins sont servis, mais moi, non. Qu'on me laisse la latitude d'aller me débrouiller ailleurs pour prendre en charge mes enfants.
Pourquoi ils nous libèrent? On entre même dans le quartier, on trouve notre famille même là. Ils ne veulent pas nous laisser. Ils nous chassent le masque. Donc nous, on ne sait même pas où aller pour se débrouiller, pour se trouver à manger. Tout le temps, c'est le riz. Et ça nous amène même la gastrique.
Cette dame qui affirme avoir perdu 3 de ses parents dans ce conflit regrette même de se retrouver sur ce site.
On voit que c'est mieux qu'on reste même dans la guerre, là, qu'on meurt même là, c'est mieux. Par exemple, mon fils, là, il était malade, je l'ai amené là-bas, là, on m'a donné le comprimé. Je l'ai fait jusqu'à 4 jours aujourd'hui, il n'y a même pas le changement. Je suis allé lui demander la permission pour amener mon enfant là à l'hôpital pour aller faire les examens généraux pour voir même là, et il refuse.
Tant que le nombre de toutes les personnes fuyant le Cameroun n'est pas maîtrisé, il serait difficile de planifier l'assistance, affirme VOA Afrique. Adoum Tahir Adoum, officier d'éligibilité à la CENAR, la Commission nationale d'accueil et de réinsertion de réfugiés et rapatriés, il a été rencontré sur le terrain.
Pour donner un meilleur chiffre, il faut qu'on les bracelette et puis on va leur donner ces tokens comme carte de ration. C'est avec ça qu'on peut les assister. Parce que ça, c'est l'enregistrement niveau 1. On a l'enregistrement niveau 2. C'est en ce moment qu'on va déterminer leur statut. Qui est réfugié, qui est retourné.
Ces réfugiés, en majorité des femmes et des enfants, dorment à l'air libre en cette période de froid. André Kodumatingar Njamena pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Inquiétude des ménages au Cameroun face à la flambée du prix du poulet de chair à quelques jours des fêtes de fin d'année. Une hausse qui perdure depuis quelques mois. Les opérateurs du secteur indiquent que la crise sanitaire est l'une des causes de la surenchère du prix de la volaille. De Yaoundé, la correspondance d'Emmanuel Jelenta.
Hormis le Covid-19, la grippe aviaire qui a sévi fin 2020 en Europe est également à l'origine de la hausse du prix du poulet de chair au Cameroun. Germain Kamga est vendeur au marché de Mvorada, le principal marché de poulet de la capitale.
Les grands éleveurs, ils nous font comprendre que la matière première déjà coûte cher. Deuxièmement, le poussin aussi coûte cher et même rare. Pourquoi rare? Parce que les œufs importés n'entrent plus. La raison, c'est le Covid. Les ports et les aéroports sont fermés par rapport à cette activité-là. C'est vrai que nous-mêmes, nous produisons les poussins sur place, mais la demande dépasse l'offre.
Les intrants avicoles vendus au Cameroun proviennent des pays tels que la Belgique, la Hollande et la France. En début du mois dernier, le gouvernement belge a instruit le confinement de sa volaille. Ces derniers jours, il faut débourser parfois 4000 francs CFA pour acheter un poulet de chair. Au cours de ces 3 derniers mois, le prix variait entre 2500 francs et 3500 francs CFA. Gervais Kamga, vendeur.
Le marché pour le moment, elle va de mal en pire, dans le sens où le prix du poulet est devenu vraiment quasi insupportable, au point où quand la ménagère arrive là, moi vendeur, j'ai même pitié de la ménagère par rapport au prix du poulet qui est sur le marché actuellement.
Le gouvernement camerounais a accordé des exonérations fiscales aux importateurs du secteur de la volaille. En plus, un groupe technique de l'interprofession avicole a été mis sur pied par le ministère dédié pour permettre aux différents acteurs de travailler ensemble sur la disponibilité des entrants. Parfait Bafakang, président du groupe technique, de l'interprofession avicole.
Le gouvernement accompagne, n'est-ce pas, les éleveurs dans l'importation des poussins de reproduction en quantité et à bon prix. Il y a également des mesures de soutien qui ont été récemment annoncées par le ministre des Finances qui contribueront aussi à faciliter le prix du poulet sur les tables et à bon prix.
La filière avicole a été durement impactée par la pandémie du Covid. Elle fait désormais face à de nombreux défis pour amener le prix du poulet cher au niveau de toutes les bourses. François Ndjounou, président de l'interprofession avicole du Cameroun.
Pour baisser le prix de ces poulets et des œufs, nous devons produire suffisamment de poussins de jour. Nous devons tout faire pour avoir des intrants, par exemple les tourteaux de soja. Nous devons travailler dessus pour que les prix baissent. Il y a par exemple les tourteaux d'arachide et autres.
Tous les espoirs sont désormais tournés vers l'arrivée sur le marché de la compagnie fermière du Cameroun, dont les activités ont débuté le 5 novembre dernier. Cette structure dispose d'un couvoir d'une capacité de 112 500 œufs et peut produire 90 000 poussins d'un jour par semaine. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Bénin, l'éradication du paludisme à l'horizon 2030 mobilise les acteurs impliqués dans la lutte contre cette maladie qui, malgré les nombreux efforts, reste l'une des premières causes de la mortalité infantile. Le programme national de lutte contre le paludisme en partenariat avec l'USAID et les hôpitaux communautaires travaille à réduire les milliers de cas enregistrés chaque année, mais le chantier est encore grand et demande plus de stratégie et de volonté politique. Les précisions avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Ferrandadé.
Au Bénin, la situation de la lutte contre le paludisme est alarmante. En dépit des efforts, il reste un véritable problème de santé publique. Les populations des zones les plus exposées ne savent plus comment faire pour prévenir cette maladie causée par les moustiques.
On n'a plus autrement à faire. On est exposé aux moustiques. On a fait un truc de souscription dans le quartier pour creuser ce petit trou-là. Ça nous a coûté plus que 200 000 francs dans le temps. On n'a vu personne.
Les statistiques en la matière montrent l'urgence de ce pencher davantage sur la lutte contre le paludisme qui a été quelque peu délaissé depuis que le Bénin a détecté le premier cas de contamination du Covid. Dr Cyriac Afoukou travaille au PNLP.
Au Bénin, le paludisme représente le premier motif de consultation, d'hospitalisation et de décès chez les enfants de moins de 5 ans. Ainsi, en 2019, le pays a enregistré 2 515 cas de paludisme, dont 3234 décès. Dernières années, des progrès significatifs ont été enregistrés dans le cadre de la lutte contre le paludisme au Bénin, et ce, malgré le contexte sanitaire actuel.
Le Bénin ambitionne d'éliminer le paludisme d'ici à 2030. Il est important, voire indispensable, d'avoir un engagement au plus haut niveau des autorités de l'État et surtout une implication plus accrue des organisations de la société civile et des communautés à tous les niveaux, fait savoir la coordonnatrice du PNLP, le Programme national de lutte contre le paludisme, Aurore Oguyemi-Huinto.
Si on mobilise la société civile de façon très étroite dans la lutte contre le paludisme, ils peuvent nous aider à encadrer les membres de la communauté et à mettre en place des comités villageois de santé. Il faut que nous puissions changer les comportements des gens en matière de lutte contre le paludisme si nous voulons réussir.
Avant 2030, le défi serait de réussir la sensibilisation des populations pour le respect scrupuleux des mesures préventives, précise Dr. Cyriac Afoukou, coordonnateur adjoint du PNLP.
Nous pouvons y arriver, mais pour l'instant, notre stratégie, c'est d'abord contrôler la maladie et lutter efficacement pour éviter le passage du paludisme forme simple au paludisme forme grave, qui est responsable du décès. Connaissons déjà les moyens de lutte, pour que ça ne constitue plus d'être un problème de santé publique.
Pour accompagner la population dans la lutte contre le paludisme, le gouvernement s'emploie à distribuer des moustiques imprégnés et procède régulièrement à la destruction des gîtes larvaires dans les bas-fonds et autres zones à risque. Mais le plus gros défi reste la sensibilisation contre l'automédication, l'autre cause de la mortalité infantile en matière de paludisme. De Cotonou, Ginette Fleur-Adandé pour VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Voilà, ce sera tout pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Jean-Roger Billon et Rosine Monizero. À la mise en onde de Michel Joseph et à la technique Kelvin Fowler. Bonne journée à l'écoute des programmes de VOA Afrique.